Alexandre
Michalak.
Michalak,
Alexandre Michalak.
Michalik.
C'est presque ça.
Tanguy Pastureau, Daniel Morin et nos invités, Amine Diwan et Anna-Maria Bartolomé.
Oh là là. Quelle équipe.
Fais attention, Maria, tu fais beaucoup trop de bruit en applaudissant avec tes mains. Je croyais voir la reine d'Angleterre. Non, t'as pas fait ça. Voilà, exactement. Tu me l'as fait en playback.
Elle a les mains gelées, c'est ça.
Je veux pas savoir.
Ouais, toutes gelées.
Je veux pas savoir. Elle a l'œil. Aujourd'hui, donc, l'événement, ce film d'Audrey Diwan, qui est totalement bouleversant. C'est son deuxième film. Il sort en salle aujourd'hui avec Anna-Maria Bartolomé, qui est également notre invitée. Cassie Motley Klein, Louana Bajrami, Pio Marmaille, Sandrine Bonner, Anna Mouglalis.
Sacré à la Mostra de Venise.
C'est vrai ?
Et oui, c'est la première réalisatrice femme, je crois, française à décrocher cette distinction.
Un lion d'or à Venise.
Et ouais.
Carrément.
Classe internationale. Wow.
Daniel.
Le lion est mort ce soir. Ouais.
Plus de rage, plus de carnage.
Attends, c'est quoi le lion est mort. Pourquoi tu me regardes comme ça, Daniel ?
Je t'ai piqué les Antilles.
Je t'ai piqué les Antilles. C'est l'Afrique, je crois.
Pardon ?
L'Afrique ?
J'ai pas entendu.
L'Afrique ? Il n'y a pas de savane aux Antilles.
Qui chante ça ?
Leïla.
Oui.
Yannick Noah.
Oui.
Il vient de loin.
Les Antilles.
C'est quoi le thème?
Je comprends pas.
Les lions, les lionnes. Ah, le lion d'or, lionne, bah, Mostra.
Ah, ça, c'est pas tiré par les cheveux.
Wow. Vu le sujet du film, j'allais pas faire la ferme bébé tout seul. Donc, il y a un moment, il fallait qu'on se sorte.
Bah, surtout que non.
Non, en plus. Qui chante ça?
Morgane.
Ouais,
bah, pareil.
Ok. T'es jolie quand tu fais ça, j'adore.
Petit cours.
Continue.
Petit cours d'anglais, n'empêche. Quand on écoute cette chanson, on se rend compte que le R.
Iron.
Voilà, le R de Iron. C'est-à-dire quand on dit Iron Maiden ou Iron Man ou machin, n'existe pas en anglais. C'est-à-dire qu'en anglais, on ne dit pas Iron, on dit Iron.
Ah ouais.
Ah non, c'est pas ça.
Ça, c'est Yannick.
Ça, écoute.
Quand tu parles d'un passage.
Pas de ça ici, monsieur.
Ah, monsieur.
Pas de ça ici, monsieur.
J'ai jamais compris ce qu'il disait, de toute façon.
Bah, lui, non,
lui, un lion de Zion, un lion en fer de Zion.
Exactement.
Ah, bah,
qui chante ça?
Morgane.
Le roi lion. Oh, bien joué.
C'est Debbie Davis, je crois.
Quoi? Bette Davis?
Chanteuse. Elle s'appelle Debbie, je crois.
L'histoire de la vie, ça va bien au film.
Allez, Alex. Qu'un enfant béni. Oh, yeah. Rend immortel.
Très violent.
Un monde infini.
En fait, moi, je voudrais que ça m'arrivait que le soir dans une belle parole, même si je souffre.
Vite une toge. J'aimerais-tu des capes de gospel? C'est l'histoire.
C'est la première fois que j'entends cette phrase.
C'est quoi cette histoire de Nagui?
Oh,
et on le soulève au-dessus de la maison de la radio.
Tout nu. Ok, attention, ceci ne veut, c'est pas passé dans l'émission. On est d'accord?
Ça n'a pas existé, Nagui.
Non, pas du tout. Qui chante ça?
Là, vous Morgane, Patrice.
Mais non.
Si.
Patrice qui?
Non, tu peux pas
l'entendre. Patrice Valcani. Étonnant, cet homme.
Comment tu fais pour reconnaître sur...
Ah, je l'ai écouté à fond, celle-là.
C'est dingue.
C'est que me arrambo,
c'est
you la de ma trimble, cause the girl finno, c'est we are liar. Non,
elle est forte, hein.
Ouais.
Eh ben, non, respect.
Oh non.
Je me suis demandé si j'allais pas le mettre en super banco.
Ouais, bah t'aurais dû.
Ouais, ça aurait été bien pour toi.
Ouais.
3 points pour Morgane, 1 pour Leïla, 1 pour Daniel. Alex, c'est quand tu le sens? Ok, visiblement tu le sens pas.
C'est maintenant?
Ah, j'ai toujours à prendre en
temps. C'est pas le super bon coup, non.
Daniel.
Ouais.
Lion.
Ça c'est le titre, mais qui l'interprète?
Red.
J'ai eu 2 vents.
Ouais. Attends, ça voulait rien dire ce que tu faisais. Français?
Non, bah, écoute.
Bah, ça empêche pas.
crazy show.
Super cool. Bruce? Non, c'est pas Bruce.
Yes, and the girl is
there. Le titre c'est Lion, oui. Clin d'œil au Lion d'or. Pour l'événement.
Daniel?
Ouais.
Dire Strait?
Mais évidemment.
Ouais, évidemment. Non, mais ça va.
Totalement d'Alain Strait.
Ouais, bah oui.
Débat. Un point pour Leila, deux pour Daniel, trois pour Morgan. Super Bongo se joue maintenant. Il y a forcément Lyon dans le titre.
Alan Maiden.
Non.
Non. Pas mal.
Ah, cherchez bien.
Je vois un truc à la Flash Dance, quoi. Marcher dans les rues de Détroit pour aller poursuivre mon rêve.
Daniel,
ah, si.
L'un des plus grands groupes. Pardon,
Toto.
Mais oui, Toto, Daniel. Toto. C'est Toto avec Toto. Lion Victoire.
Il n'a pas chanté qu'Africa.
Daniel.
C'était pas évident.
Et merci d'accueillir Audrey Diwan et Anna-Maria Bartolomé.
France Inter, la bande originale. Avec Nagui.
Étant donné le sujet du film, normalement on fait le blind test sur le sujet du film, là on a pris plutôt le Lion d'or. Voilà,
ça serait... C'est dommage, j'aurais été curieuse de savoir ce que vous pouviez me proposer.
Alors j'avais, elle a fait un bébé toute seule, puis après je me suis dit, ben non, je vais m'arrêter là, j'avais besoin de 7 titres, et je me suis vite arrêté, bien que la musique soit présente dans votre film. Deuxième film, l'événement qui porte bien son nom, parce que ce film est un véritable événement, c'est une claque, même que l'on prend.
Adapté,
c'est l'histoire.
Une superbe œuvre de Danny Arnaud, l'événement qui était sorti en 2000.
L'avez lu, vous êtes dit, il faut que j'en fasse un film?
Non, en fait, c'est beaucoup plus lent que ça. Je l'ai lu, j'y ai pensé longtemps. En fait, c'est un processus plus calme.
Ce processus vient aussi d'un acte presque militant politique, c'est-à-dire qu'on ne peut pas imaginer ce film comme n'étant pas un film sociétal. Oui, c'est une histoire, peut-être une histoire vraie, en tout cas il y en a eu beaucoup de similaires autour de l'avortement, autour de ces faiseuses d'anges, comme on les surnommait, c'est-à-dire des femmes qui aidaient des jeunes filles à avorter parce que la médecine refusait de le faire et même la loi punissait.
Oui, la loi punissait
prison.
Surtout. Hein.
Ouais.
Pour les deux, le médecin et celle qui se faisait avorter.
Oui, et puis tous ceux qui étaient au courant autour. Ouais. C'est un acte politique pour vous?
Alors, au départ, moi, mon désir, c'est de proposer une expérience plus artistique. C'est de dire, en fait, est-ce qu'on peut non pas regarder cette jeune fille, mais être dans son corps? Et en fait, en proposant cette expérience, on rejoint la question politique, parce que si on fait ce voyage, qu'on soit une femme ou un homme, quel que soit son âge, forcément, on se pose des questions de manière différente. Et donc, moi, je suis toujours attirée par cette pulsion artistique. Et puis, je pense que quand on parle intimement de ces sujets-là, quand on s'investit intimement là-dedans, on livre une vision du monde qui fait que ça devient politique.
C'est vrai que la force de votre réalisation, la beauté, la qualité de votre réalisation est d'être en caméra subjective sans être vraiment en caméra subjective. C'est-à-dire qu'on est plutôt à l'angle de l'épaule, on voit ce qu'elle voit, mais sans être exact, tout en la voyant elle. Je ne sais pas comment formuler différemment. Non, mais c'est vrai, c'est-à-dire que caméra subjective, c'est-à-dire on est vraiment à la place des yeux du personnage, là, on voit ce qu'elle voit, mais presque pile à l'opposé, quoi.
En essayant de rentrer dans son regard, dans ses sensations, et de se dire, mais dans le fond, qu'est-ce que c'est que ce parcours? Moi, j'essayais de penser à cette jeune femme, à cette jeune Annie Arnaud, qui a ses études prometteuses, qui a plein de désirs, elle a un désir intellectuel fort, elle a des désirs sexuels, elle a envie de cette liberté-là. Et elle se retrouve face à la loi, qui est l'obstacle majeur. Et donc, je me dis, mais comment on incarne ce parcours? Comment on fait pour être cette jeune femme? Comment on fait pour vivre ces années 60 comme si c'était aujourd'hui?
Eh ben justement, la question, Anna-Maria...
Je la sentais.
Eh ben oui.
Dès qu'elle a dit ça,
elle était formulée. C'est une offrande.
Et voilà.
Comment l'incarner? Déjà, c'est un univers, attendez, votre jeunesse que vous avez totalement découvert, c'est-à-dire que c'était des choses que vous ignoriez de ce qui s'était passé dans les années 60?
Absolument. Moi, j'avais aucune idée de la réalité du processus d'un avortement clandestin.
J'ai découvert ça grâce au scénario et puis grâce au livre que j'ai lu ensuite. Et j'ai été assez choquée de mon ignorance et quand même assez en
légitime.
Colère de ça.
Non, mais oui, elle est légitime, c'est pas...
Ouais, mais quand même, je
enfin,
me suis
quand même,
dit,
on peut se renseigner. Quand même, mademoiselle.
Non, mais ça a l'air tellement fou que c'est difficile
ça,
de l'imaginer,
c'est ça
surtout.
Aussi, ouais. Et il n'y a pas si longtemps, quoi.
Il n'y a pas si longtemps, et le fait de me dire que c'est encore le cas aujourd'hui, que c'est encore d'actualité...
Dans moi, certains pays, ouais.
Dans certains pays, j'ai ressenti une très grande colère, et je pense que c'est cette colère qui m'a aidé à affronter ce personnage avec détermination.
Est-ce qu'on se pose la question, au-delà de l'offrande d'un rôle aussi fort et aussi important et dans un si bon film, on se pose la question de l'assumer, de le faire, de le jouer? Alors je sais bien ce que toutes les actrices et tous les acteurs vont dire, ce n'est que du cinéma, ceci n'est pas mon corps, mais il y a quand même des scènes où on peut se poser la question en disant, est-ce que je vais... assumer de le faire et de jouer.
Ouais, totalement. J'avais la pression. Il y a des scènes. C'est la première fois que je me montre aussi vulnérable, que je me mets à nu, littéralement parlant. Enfin, il y avait des. C'est la première fois que j'osais autant et que je me montrais autant. Donc oui, j'avais un peu la pression et j'avais certaines craintes et certains doutes, mais qui se sont estompés assez vite. À force de travailler le rôle, on a beaucoup travaillé en amont avec des répétitions.
Et puis, ce sont pas des scènes gratuites, elles sont nécessaires à l'histoire.
C'est là que tu vois que c'est une femme qui réalise.
Ouais, sûrement, ça joue, oui, de se dire je suis en confiance parce que c'est elle qui le fait.
Totalement, ouais.
Est-ce que vous avez posé beaucoup de questions autour au-delà de lire le scénario et de lire le livre, ce qui est déjà un travail que toutes les actrices n'auraient pas forcément réalisé.
Un truc à dire.
Est-ce que vous
avez... lire le scénario, non, c'est que... quand même pas mal. C'est recommandé.
Ça déjoue quelques surprises.
C'est pas le cas de tout le monde. On en a parlé hier avec Benoît Magimel qui n'avait pas lu le premier scénario qu'Emmanuel Bercot lui avait donné. Donc il peut y avoir aussi des envies comme ça de jouer un personnage ou jouer dans un film en toute confiance. Oui, je ne fais que répéter ce que on dit.
D'accord.
Légende ou pas, je ne sais pas. Mais le travail, par exemple, de lire le livre derrière, vous avez ressenti le besoin d'aller plus loin que le scénario en lisant le livre ?
Ouais, moi j'ai tout de suite lu le livre, en fait, juste après avoir lu le scénario et avant le premier casting d'ailleurs, parce que je me suis dit, je vais peut-être y trouver des réponses à certaines questions, des détails qui ne sont pas dans le scénario et qui pourraient m'enrichir pour mes premiers essais. Mais au-delà de ça, non, je me suis vraiment appuyée sur le scénario plus que sur le livre.
Vous dites casting, ce sont vraiment des essais ou c'est un casting ?
Ce sont des essais.
Comment ça s'est passé ?
Séance de travail.
Il faut prendre le temps, en fait. Ouais. Moi, je savais que le film et l'actrice ne feraient qu'un. Donc, évidemment, ce choix était crucial. Et j'avais plusieurs questions à l'endroit de la comédienne qui l'incarnerait. Et en fait, Anna Maria avait lu le livre.
De quel ordre ? Des questions de...
J'en avais plusieurs. Déjà, moi, je voulais une comédienne qui ait déjà fait des films. Parce que le chef opérateur, Laurent Tanguy, est toujours... tellement en proximité, il faut dompter l'idée de la caméra. Il faut être capable de continuer à jouer en l'ignorant. Et donc, évidemment, Anna Maria avait déjà... elle a commencé très jeune, mais dans les critères principaux, il y avait le fait de faire passer beaucoup d'émotions en faisant très peu, le fait d'avoir un rapport au texte, parce que je cherchais vraiment ma partenaire intellectuelle. Donc, en fait, elle avait très bien fait de lire le livre avant, parce que quand on a commencé à parler de l'œuvre, elle la connaissait, donc on pouvait échanger sur ce que c'est que d'incarner cette jeune femme qui est étudiante en lettres et qui, un jour... va devenir autrice, donc tout ça c'était important.
Cette étudiante en lettres où toutes les questions se posent évidemment, parce que il y a l'avortement, il y a ce voyage dans les méandres de... C'est un thriller finalement, c'est-à-dire qu'il y a un suspense en se disant mais comment va-t-elle s'en sortir, comme si on était dans un film policier. Mais il y a ce côté sociétal du regard des autres, et quand je dis le regard des autres, ça passe par la famille, ça passe par évidemment les garçons qui draguent le pompier de la caserne du coin, ça passe par les copines aussi, le jugement des copines, le jugement des profs avec ce laisser aller sur les études, la place de la femme aussi dans la société, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de facettes autour de tout ça.
Ouais, c'est une femme qui veut aussi s'en sortir, parce que il faut pas oublier que ce personnage vient d'une certaine condition sociale. Ouais. C'est parce qu'il y a avortement et avortement aussi à l'époque, c'est-à-dire qu'être fille mère, c'est un drame, ça c'est sûr, mais pour une femme qui veut s'élever par la connaissance, par les études, par l'emploi, c'est un double drame en fait, elle est doublement sanctionnée venant d'un milieu, les parents sont tenanciers d'un bar.
C'est ce qu'on voit dans la bande-annonce, donc on peut le dire, c'est la claque donnée par Sandrine Caroline Bonner. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu connais, toi, aux études? C'est, elle lui renvoie des, son statut presque d'illettré, j'allais dire, ou en tout cas dans cette vanne très, très méchante, et elle se prend une claque en retour.
Qui était d'ailleurs une gifle très naturaliste, hein, puisqu'Anna Maria a vraiment pris cette gifle
plusieurs fois.
On l'entend bien.
On l'entend bien.
D'ailleurs, vous êtes encore rouge.
Et Sandrine m'a envoyé un texto en disant j'ai demandé d'en faire plusieurs exprès.
Mais moi, je trouve que votre lecture, elle est juste. Et en fait, la base de toute cette histoire, c'est déjà effectivement une jeune femme qui veut sortir de sa condition sociale. C'est une histoire de transfuge de classe. Et en fait, à l'époque, quand on tombe enceinte et qu'on décide d'avorter et qu'on n'a pas les moyens d'aller le faire à l'étranger, on met son corps à risque. Donc il y a déjà le risque qui est lié à la classe sociale. Et puis moi, honnêtement, en lisant le livre, la première impression que j'ai eue, c'était effectivement qu'il y avait un suspense intime intolérable. Je pouvais pas relâcher et finir, je pouvais pas poser le livre avant d'avoir fini, parce que le suspense me semblait trop fort. Hein.
Oui, parce que la santé, on a évoqué le thriller en termes de danger presque juridique, policier, de se faire arrêter et d'être jugé ou emprisonné, mais il y a aussi le danger simplement de mettre sa vie en péril. Alors évidemment, les anti-avortements diront, il y a aussi la vie du bébé dans cette histoire.
Voilà, exactement, ils diront bébé et pas fœtus.
C'est ça la grosse différence, oui, c'est pour ça, et évidemment. On va continuer de parler de cet événement qui porte bien son nom, sans faire de mauvais jeu de mots. Il y a quelques scènes où il faut s'accrocher.
Non, mais c'est vrai qu'on ressent la douleur. Et ça, c'est un truc très très fort dans le film, c'est qu'on ressent la douleur. On est vraiment en empathie, quoi, parce que
y compris quand on est un homme. Pardon de préciser, je suis désolé de genrer cette réflexion.
Mais c'est intéressant.
Mais j'ai vraiment ressenti la douleur en me disant si j'étais à sa place, je comprends ce qui se passerait. Mais alors j'imagine que les femmes le vivent peut-être encore différemment dans leur chair, mais en le voyant, j'ai souffert en même temps.
Surtout que c'est un sujet qui concerne beaucoup de femmes, parce que même si c'est très compliqué de le dire, ça a été longtemps tabou, ça l'est peut-être de moins en moins, dire que on a subi un avortement, c'est très fréquent, c'est très très fréquent dans la population française. Je sais plus quel est le chiffre, peut-être que Audrey, vous le maîtrisez.
Mais non, le chiffre aujourd'hui, je le connais pas. Après, je sais qu'ils ont essayé de mesurer ce qui était de l'ordre de 300 000 avortements clandestins à l'époque où c'était clandestin. Ouais. Évidemment, c'est difficile à mesurer parce que la clandestinité le permet peu.
Ouais.
On en a plein des casques.
Oui, pardon, j'ai jeté un casque par terre.
Non.
Mais très négligemment, comme ça.
Jeter tout.
Vous le faites avec beaucoup d'élégance, en tout cas. Le lancer de casque est très joli.
Je m'entraîne régulièrement.
En tout cas, ça balaye très vite d'un revers de la main, ce film. Tous ceux qui pensent et qui disent que l'avortement est un geste de confort.
Ouais, alors bah c'est ça.
Oui, c'est vrai que cette phrase-là, tu te dis, mais c'est pas possible, quoi.
Et encore aujourd'hui, alors que c'est légal et que c'est quand même un chemin, quoi.
C'est un film d'utilité publique. Il faudrait le montrer dans les écoles à toutes les adolescentes, parce que c'est une leçon, et puis surtout de se dire que ce combat n'est pas acquis et qu'il faut le maintenir pour que les femmes puissent disposer de leur corps comme elles le souhaitent. On va continuer d'en parler avec vous et de l'interprétation d'Anna Maria, qui est absolument formidable, évidemment, sous la direction d'Audrey Diwan dans ce film. Malheureusement, nous sommes ravis de vous accueillir.
Ouais.
C'est pas le cas de Morgane Cadignan.
Des blagues.
Parce que Morgane ne vous aime pas, mais alors pas du tout.
Non, appuie pas non plus. Audrey, Anna Maria, je vous aime pas. Hier, à cette heure-ci, on parlait de cancer. Et là, on enchaîne tout naturellement avec l'avortement. C'est quoi demain au menu, chef Nagui? La cinquième vague, le scorbut, le nouveau Christian Clavier. On va aller jusqu'où comme
pire,
ça
Mathieu Madagnan.
Non, pas ça.
Sérieux? On s'enfonce dans l'horreur, quoi. Bon, heureusement, les sujets, ils sont pas légers, mais ils ont le mérite d'être quand même très très bien traités, parce que pour s'emparer de l'œuvre d'Annie Ernaux, faut quand même un cerveau qui fonctionne à l'endroit. Audrey Diwan, de vous, je connais, mais vous êtes fou. Je l'ai vu le mois dernier, j'ai envie de répondre oh oui, parce qu'il m'a beaucoup plu ce film, plus que l'album de Benny Biss, qui était quand même un vrai défi. Ouais. Oh. Aujourd'hui, vous venez nous parler de l'événement qui n'est ni heureux ni malheureux pour le moment, qui est juste un événement. L'histoire d'une étudiante qui tombe enceinte par accident, problème et pas des moindres. On est en 1963. Nagui avait 2 ans, c'est pour vous dire à quel point ça remonte. À l'époque, il parlait à peine, époque Benny. Il faisait cependant des babillements déjà très très longs. On a découvert seulement 15 ans après que sa nourrice n'était pas muette, c'est juste qu'elle n'arrivait pas à en placer une. Et Nagui en vrai, vous savez que je vous aime d'amour et que c'est gratos, mais vous attaquer, c'est surtout le moyen de pas avoir à écrire des blagues sur l'IVG, c'est tout. L'IVG, ça commence à devenir moins tabou maintenant un peu, et je parle de la France, hein, parce qu'il y a quand même plein de pays où on est encore en 1963, voire en 1863. Donc en 63, en France, on est dans une année où le numéro 1 du top 50, c'est Belle, Belle, Belle de Claude François. Signe qu'on n'a pas encore tout bien déconstruit. Fallait qu'on soit toutes belles, belles, belles comme le jour, mais pas pleines, pleines, pleines par accident. Qui n'est pas une chanson très réjouissante, je vous le conseille. Mais il n'y a pas de chanson là-dessus, hein, sur la grossesse non désirée. Le seul truc qu'on peut faire, c'est rajouter un pas au titre de Michel Jonas. Je voulais te dire que je t'attends pas. Et puis en plus, c'est pas ouf. Et puis en plus, votre personnage, Anna Maria, elle a les examens qui approchent, pas seulement ceux du col de l'utérus. Je suis payée pour ça. C'est le monde d'après, hein. Il y a des pertes. Non, en gros, cette fille, elle est c'est toi qui le vois. En gros, cette fille, elle est prise en étau, elle est pressurisée de partout, elle porte un bébé, la pression sociale, la pression de son entourage, des examens, et c'est une battante. Moi, déjà, pour réussir à aller passer l'oral de français, ça a été 3 semaines sous The Phytos avant, mais alors le passer l'examen avec un bébé non désiré dans le ventre, mais tu m'oublies, salut. J'espère que le fœtus, il a bien potassé Antigone, parce que c'est pas moi qui vais réussir à parler, quoi. Anna Maria, quant à vous, je vous avais découvert avec L'échange des princesses de Marc Duguay en 2017, dans lequel vous étiez mariée de force. Là, vous avortez illégalement. Bah écoutez, ça part bien. Promis, votre prochain film, vous incarnerez Obama, Louise Michel ou Simone Veil, parce qu'il faut bien qu'on vous rende un peu l'appareil à un moment.
Bravo. Merci, Morgane. Morgane, du jeudi au samedi, au métropole, à 20h.
Ça s'arrête jamais.
Mais franchement, incroyable. Je vois tous les week-ends.
Adapter un roman pour en faire un film, on a toujours entendu la même phrase
ici. C'est pas un roman, hein, c'est un texte autobiographique.
C'est un texte autobiographique, on a toujours entendu la même phrase en disant qu'il y a une part de trahison lorsqu'un livre devient un film. Annie Arnaud a vu votre film.
Ah oui, alors moi je craignais évidemment, parce que c'est un peu inconsidéré d'adapter une autrice qu'on aime. Et donc elle a vu le film, mais depuis le départ je lui avais présenté mon projet d'adaptation. Et je cherchais comment un peu inscrire mon geste dans le prolongement du sien. Donc, avant de le voir, elle savait ce que j'étais en train de faire. On en avait parlé beaucoup. Je lui avais fait lire quelques versions du texte. Et en fait, ce qui était super dans cette collaboration, c'est que on avait un mot qui nous a servi de pierre angulaire. Elle me pointait ce qui était juste à son sens et ce qui ne l'était pas. Non pas ce qui relevait du livre ou ce qui n'en relevait pas, mais en fait, ce qui pouvait relever d'une pensée d'époque ou ce qui était un peu à côté des idées qu'on avait à cette époque-là.
Ça devait être génial de collaborer avec elle comme ça, à ce point, en fait.
En fait, ce qui était génial, c'est que c'est impressionnant au départ de rencontrer cette autrice que j'aimais. Pour moi, c'était très impressionnant. Et en fait, comme on s'est tout de suite mise au travail, ça désarme quelque chose. Il y a quelque chose de la collaboration qui se met en place et qui fait que tout à coup, c'est possible de s'emparer du texte.
Anna Maria Bartholomé, dans un rôle, il y a tous les moments où vous jouez, vous êtes présent, vous êtes de pratiquement de tous les plans, mais pas forcément de tous les dialogues. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de scènes où il n'y a rien à dire, où il faut tout jouer. Et ça, c'est un exercice.
Je me mets dans la tête des auditeurs qui... Alors attendez, donc c'est un film sur l'avortement clandestin, on ne parle pas.
Il y a, non. Mais alors, je prends volontiers la vanne. On revient dans 2 secondes. Mettez de côté le mot silence et on en reparle en 2 secondes tous les deux. Mais je voulais savoir ce que l'on ressent quand on est actrice et qu'il faut justement, au-delà d'interpréter ou de déclamer, il faut ressentir, il faut vivre, il faut jouer avec les pores de sa peau.
Là, pour le coup, ce qui a été très utile, c'est tous les monologues intérieurs qu'on a réussi à instaurer avec Audrey. C'est des petites phrases, des mots, parfois, qu'on se répétait avant une prise, ou même qu'on avait dessiné en amont.
Que vous gardiez dans votre tête.
Que je gardais dans mon esprit, où je me disais, donc, pendant ces silences-là, j'essayais de les nourrir et de les incarner du mieux que je peux. Et je pense que c'est ce qui m'a aidé à avoir cet air préoccupé et concentré.
Est-ce qu'on va chercher les choses les plus fragiles que l'on peut porter en soi, les plus personnelles, sans dire lesquelles, mais est-ce qu'on va soulever les couvercles que l'on...
Ouais, ça fait partie du jeu, ouais. Ouais.
Et c'était donc dur ?
Bah oui, c'est pas évident, mais...
On sort pas indemne d'un tournage comme ça ?
Enfin, franchement, dire on sort pas indemne, je pense que ça implique une part de douleur, de... Moi, je pense que j'en ressors grandi et beaucoup plus mature est nourri et riche de toute cette expérience et de l'œuvre d'Annie Ernaux aussi, que j'ai beaucoup lu par la suite. Et j'ai l'impression de plus m'assumer et d'être plus confiante en tant que jeune femme et puis en tant qu'actrice aussi, puisque j'ai quand même bénéficié d'une très grande liberté sur ce tournage. Donc
Le silence, donc. Allons-y, Audrey, je fais des vannes.
Non mais, ok, nous on sait, la question c'est comment faire du film une expérience.
Non, c'est
forcément,
pas ça. Ce que
c'est travailler sur des dimensions qu'on n'a pas l'habitude
J'entends, mais le silence est l'un des thèmes du film. C'est qu'elle ne doit pas le dire, c'est qu'elle ne le dit pas à ses amis, elle ne dit pas à sa famille. Les médecins lui disent de se taire. Donc on est vraiment autour du silence, et vous avez joué de cet axe-là, y compris en recevant le Lion d'Or à Venise. Vous avez eu un moment de silence.
Oui, alors vraiment, celui-là n'était pas prémédité. En fait, je crois que j'étais juste sous le coup de l'émotion avant de pouvoir reprendre la parole. Et en fait, c'est très impressionnant parce que ce moment, il est si fort émotionnellement, si heureux. Et en même temps, j'avais quelque chose à dire à ce moment-là. Et donc, j'essayais de reprendre mon souffle avant de réussir à poser des mots. Et je pense que c'est ça, la conquête des mots aussi. Et dans le film, le silence, il a un rôle important parce qu'en fait, plus elle est seule... plus elle doit trouver cette solution et aller chercher en elle les ressources pour parvenir à ses fins, et plus le silence a une dimension forte parce qu'on est dans sa tension à elle, parce qu'on est dans son moment, enfin tout ce qui fait que...
Et vous avez dit avoir beaucoup échangé avec Annie Ernaux sur le silence, justement.
Bah oui, en fait, à quel moment les mots à quel moment on s'interdit de poser des mots, et en même temps comment ce silence a un lien intime avec la honte. C'est-à-dire que moins on parle des choses, plus finalement on construit et on pérennise cette honte.
Et le titre même de l'œuvre d'Annie Ernaux, L'événement, il dit bien qu'on ne pose pas des mots. Et en fait, moi, ce qui m'a aussi beaucoup plu dans le livre, c'est de voir à quelle époque ça se passait. On l'a dit, c'est 63. La France est en train de retravailler un peu sa mémoire en lien avec la collaboration, la résistance. Votre personnage étudie en cours magistral un texte où il est question d'Aragon et d'Elsa Triolet. Et derrière, une histoire d'amour, c'est une histoire de résistance. Et puis l'événement, c'est aussi les événements, et on est en 63, on parle de la guerre d'Algérie, c'est des faits qu'on ne veut pas nommer. Et moi, j'ai trouvé que cette mise en abîme-là, elle était riche, elle donnait encore une autre dimension. J'avais pas eu la sensation de le lire dans l'œuvre d'Annie Ernaux, et ça, c'est ce que vous apportez, Audrey Diwan, avec ce film, en fait. Et je trouve ça hyper réussi de pouvoir penser à ça aussi, de ne pas dire les mots, et de trouver une référence qui minimise un peu les faits. L'événement. L'événement, ça peut être n'importe quoi. Sauf que là, c'est un événement capital dans la vie d'une femme et dans la vie d'un pays, en réalité.
Ouais, ça peut être n'importe quoi, sauf que il prend un poids et une gravité à cause du silence.
Oui.
Et du jugement que l'on attend du regard des autres, ou de la peur du jugement du regard des autres, même avec ses propres amis. Cette jeune fille ne sait pas comment parler.
Ah, mais à l'époque, je pense qu'on mesure mal ce que c'est que cette peur, en fait. C'est-à-dire que, je pense que dans une société, il y a peu de résistants. D'ailleurs, on le vérifie à chaque fois qu'une loi se dresse fermement contre un peuple, il y a peu de gens qui s'y opposent. Et en fait, l'avortement clandestin à l'époque, ces numéros qu'on échange comme ça, discrètement, sous le manteau, dans l'ombre, pour moi, ça m'évoquait vraiment la résistance. Ouais. Je pensais à l'armée des ombres, même de Melville, à un moment, en écrivant. Je me disais, en fait, ils sont peu nombreux, ceux qui sont prêts à aller en prison pour aider.
Ouais. Même les plus proches, même les amis les plus proches, qui ne veulent pas en entendre parler, parce qu'elle vit ça dans une solitude terrible, en réalité.
Oui, mais alors, il y a aussi une... Enfin, moi, je ne juge pas du tout les personnages, et ce que je comprends de ces jeunes filles, c'est que, à l'instar du personnage qu'incarne Anna Maria, elles viennent toutes d'un milieu prolétaire, ce sont les premières à accéder aux études supérieures, et en fait, tomber enceinte ou finir en prison, c'est presque une trahison sociale, c'est une trahison des parents qui se sont sacrifiés, qui donnent beaucoup pour que les enfants puissent faire des études, et en l'occurrence, ces filles, et qu'elles soient les premières. Donc c'est renoncer à beaucoup de choses que de décider d'aider en prenant ces risques.
Et Anna Mouglalis, alors là, waouh, déjà...
C'est un personnage monstrueux et assez étonnant, en fait.
Et le regard,
ça qui est intéressant.
Le regard, parce qu'on on parle souvent, à juste titre, de la beauté de la voix d'Anna Mouglalis, mais le regard qu'elle lance à un moment donné, c'est-à-dire qu'il y a une espèce d'autorité qui est à la fois fait pour rassurer, mais qui est très inquiétant aussi.
Ah bah elle a une présence. Si vous voulez, il faut quand même se figurer ce que c'est à un moment que d'essayer de trouver quelqu'un qui va vous aider. C'est le plus haut degré d'intimité, je pense, qu'on puisse partager avec quelqu'un. Si le geste est mal fait, si ça se passe mal, c'est la mort. Mmh. Donc chercher quelqu'un qui va vous accompagner dans ce processus d'avortement clandestin, c'est remettre sa vie entre les mains d'une inconnue. Or, ce sont des êtres qui ne sont pas voués à se connaître, parce qu'on est justement dans cette espèce d'acte de résistance, et qu'il ne faut rien savoir sur l'autre, ni dans un sens, ni dans l'autre. Donc je cherche quelqu'un qui ait la présence nécessaire pour incarner ce moment particulier, donc ce regard, cette voix, cette autorité, et cette pensée. Parce que Anna Mouglalis, en plus, je la connais, c'est quelqu'un qui est militant, c'est quelqu'un qui défend une position très claire, qui pose un regard clair sur ce qu'est la femme dans la société. Enfin, voilà, elle a une présence et plusieurs dimensions qui me faisaient dire que j'aimerais qu'elle vienne. Et après, les acteurs secondaires dans mon film, Pio Marmaille, Sandrine Bonner, Fabrizio Rongene, Anna Mouglalis.
C'est chic comme acteur secondaire.
Mais surtout, ils viennent faire 2-3 jours à chaque fois, 4 jours. Donc, ils viennent défendre un projet, un propos, ils viennent entourer les jeunes acteurs du film. Enfin, moi, j'ai eu la chance d'être très portée pour...
C'est marrant, comme vous le racontez, on a l'impression que ça devient militant de la part de chacun aussi, de participer au film.
Écoutez, je pense qu'il y a une pensée du film qui était vraiment partagée par tous, mais ce qui est militant surtout, c'est qu'on fait un film qu'on propose comme une expérience, on le fait avec des moyens qui sont pas immenses non plus, donc je pense que chacun est venu, mais équipe technique et acteur, en donnant beaucoup, ouais.
Et vous vouliez qu'il y ait quelques coups de poing dans le plexus solaire aussi pour le spectateur? C'est-à-dire que il y a...
Moi, j'aime bien le cinéma qui vient vous chercher sur votre chaise. Il n'y a pas de...
C'est réussi. Non, mais vous n'êtes même pas posé la question.
Non, en fait, je me dis qu'il faut... Enfin, le livre d'Annie Ernaux a cette grâce de ne jamais détourner le regard. Je ne voyais pas pourquoi, moi, je baisserais les yeux.
Parce que vous savez aussi bien que moi que les mots et les images n'ont rien à voir.
Non, mais je cherche à circonscrire de la manière la plus précise possible ce qu'est le regard de cette jeune femme quand elle traverse ce chemin. Le regard qu'elle porte sur son corps, le regard ce qu'elle porte sur ses événements, ce qu'elle ne veut pas regarder, qu'elle ne peut pas s'empêcher de regarder. Donc j'essaie d'être juste à l'endroit de ce regard.
C'est réussi. Ça s'appelle L'événement, c'est un film à voir et j'encouragerai les papas à y aller également avec leurs enfants adolescents, parce qu'il y a une vertu d'éducation en plus de ce film, qui a un côté évidemment historique, il ne faut absolument pas oublier ce qui a été vécu il y a quelques années ici, il ne faut pas oublier non plus tous ces discours rétrogrades que l'on entend, et de voir votre film, et en effet tu le disais tout à l'heure Daniel, on ne peut plus entendre des expressions qui sont déclamées dans la rue par des gens qui...
On est loin du confort.
Ouais, clairement. La musique, dans quelques instants, on va parler de la BO du film, parce qu'il y a ce générique qui nous emmène.
Ça m'a envie de jouer.
Dans les années rock quand même, mais avant de parler de la musique, de vos musiques, voici Monsieur Alexandre Kobilek.
Allez, vas-y,
je me réchauffe.
Chauffe.
En plus, je suis vraiment heureux d'être là et de refaire une chronique avec vous. Ah, même si j'ai eu la bonne idée d'aller
mademoiselle, n'ayez pas peur, hein, il est sourd. Hein, c'est
je
pour
parle
ça qu'il
fort
comme ça, mais
je parle fort tout le temps.
C'est sourd.
C'est parce que
c'est
très en boîte,
ça n'est pas dangereux. Nous, c'est ça.
Parce qu'en boîte de nuit, on parle comme ça.
Ouais, d'accord.
Ça marche, Nagui.
Ouais, tranquille.
Je suis hyper content d'être là avec vous. Même si j'ai eu la bonne idée d'aller voir des commentaires YouTube qui sur mon dernier passage. Ouais, donc j'ai vu un. Je paye ça avec ma redevance. S'ils savaient le pire, c'est que ce que moi je paye avec ta redevance. Vraiment, hein, c'est... Voilà.
Bon,
non, sois pas choqué, Nagui. C'est toi qui m'as dit tout à l'heure, allez viens, on va aux chiottes. J'ai dit quoi avant l'émission? J'ai fait ok. Il m'a dit non, chiottes handicapées. J'ai dit quoi? Oui, il me fait, il y a plus d'espace et ils sont jamais là. Donc, ouais. 30 secondes après, j'étais en stress en plus. Bah oui, parce que moi j'étais là, ah ouais, il y a jamais d'handicapés, mais c'est quoi ce bruit? On entendait. Il me fait non, c'est Morin qui répète sa chronique. Bref, samedi.
Pourquoi tu ris, toi?
C'était mon anniversaire samedi.
Oh non, c'est vrai, joyeux anniversaire.
Joyeux anniversaire.
Merci.
Joyeux anniversaire.
Merci.
Ouais. Scorpion.
Ouais. Comme
surtout
toi.
Très bruyant.
Et on m'a organisé un anniversaire surprise.
Ah.
Et ce que j'adore dans les anniversaires surprise, c'est pas le côté on a réuni tous les gens que t'aimes dans un resto que t'aimes parce qu'on t'aime. Non, ça je m'en bats les couilles. Ce que j'aime, c'est ce sentiment d'être une star. Hein, tu es le centre de l'attention. T'as rien à faire. On a pensé à tout pour toi. Le seul truc que t'as à faire, c'est de faire croire que tu t'y attendais pas du tout. Hein. Moi, à chaque fois, j'ai l'impression de travailler mon jeu d'acteur. Tu vois, je travaille mon futur César. Je pense vraiment aux anniversaires aux surprises. Tu joues l'étonnement, déjà. Hein. T'es là, mais non. Oh, la gratitude. T'es là, oh là là. Oh, mais vous êtes fous. Merci, fallait pas. Hein. La vie est une école de cinéma pour moi. Mm-hmm. Vraiment, je te jure, j'ai appris à jouer la certitude avec les filles. Alex, t'es clean, mais évidemment. Revenons-en aux anniversaires surprises. Ce que j'adore aussi, c'est ce moment où on t'explique tout. Hein, tu sais, ils se font une joie de t'expliquer cette grosse arnaque. Oui. Hein, alors qu'on parle d'un resto avec des gens qui viennent 30 minutes à l'avance. Hein, c'est voilà, on est c'est plus clair. Proche d'un embarquement EasyJet que de l'arnaque à la taxe carbone. Hein. Mais j'adore ce moment où les cas sociaux, hein, qui te servent de potes te font croire que c'est la Casa des Papels. Hein, comment tout s'est mis en place, hein, qui a pris contact avec qui, et il y a toujours le ou la pote qui a failli tout faire foirer, hein. Et c'est jamais le champion de la bande. Hein, tu te demandes même ce qu'il a fait lui, enfin ce qu'il fait là lui, on pourrait clairement s'en passer. D'ailleurs, j'ai vraiment l'impression de parler moi dans cette émission. Mais bref, j'aime les anniversaires surprises parce que c'est la preuve qu'il y a des complots qui sont bons pour, qui sont pour ton bien en fait. Il y a des complots pour ton bien. Alors, il n'y a aucun sous-entendu là-dedans. Je ne parlerai pas de vaccination, hein, car je ne veux pas me mettre des auditeurs d'extrême-gauche à dos. Et je n'ai pas envie, de l'autre côté, d'être contacté par Big Pharma. Hein. Après, s'il y a moyen de taper un gros billet, voilà, hein, je suis même prêt à faire Shabbat. C'est dingue, quand même, ce concept d'anniversaire surprise. Parce que les invités se considèrent comme cadeaux. Ils ne ramènent rien. C'est comme si moi, je faisais ma chronique, la tête contre le micro, je dis rien. Juste, je suis venu. Juste pour ton plaisir, Leïla, titre. Bref, je vous souhaite à tous d'avoir des amis qui vous font des surprises et surtout des amis qui restent fidèles à eux-mêmes. Je dis ça parce qu'à 4h du mat, en boîte, comme d'hab, j'avais ce pote qui s'était de nouveau fait de nouveaux copains dans le fumoir. Il y avait celui qui essayait de parler en wolof avec le videur alors qu'il était congolais. Il y a celui que t'esquives après 3 verres, hein, et qui te prend par la nuque et qui te dit à l'oreille « Je l'aimais, frère, je l'aimais !» Et à qui tu réponds « T'as pas vu les autres ?» T'as cette copine aussi qui toutes les 3 chansons crie « C'est ma chanson !» Et t'as ce pote qui lui depuis peu ose crier « C'est ma chanson !» Et à qui tu réponds « Tu ken avec qui tu veux, on t'en voudra jamais, mais tu commences pas à nous faire chier comme Elodie. » Enfin voilà, ça m'a fait plaisir de voir que j'étais entouré de mes amis, parce que une fois tous partis en me souhaitant le meilleur, en me disant combien ils m'aiment, qui s'est retrouvé à payer l'addition? Surprise.
Merci Alexandre Kopnik.
Le vendredi à 21h30
au Jardin Sauvage.
Voilà.
Nous recevrons Violaine Oudarmero, professeure émérite en littérature, et nous parlerons d'Annie Ernaux avec elle dans quelques instants. Ça sera après la musique dans vos vies, Audrey Diwan et Anna Maria Bartolomé. On va commencer par vous, Audrey. Vous écoutiez dans les années 2011.
Il y a du background.
Qu'est-ce qu'elle évoque pour vous, cette musique?
Alors pour moi, elle évoque le premier film auquel j'ai collaboré. Et en fait, c'était vraiment un tout petit film. Il était quasiment autoproduit. Les loges, c'était notre appartement. Donc... Et après, quand on a monté le film, quand Cédric Jimenez a monté le film, on a eu la bonne idée d'utiliser la musique des Daft Punk, celle qu'ils avaient composée pour Tron, en se disant, franchement, ça a donné le film une certaine ampleur. Oui. Bon, après, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas les droits.
La dure réalité de la vie.
C'est la dure réalité, oui.
La vie du cinéma.
Et à cette époque-là, Audrey, vous finissez par travailler comme scénariste pour la télévision. Vous avez bossé sur Mafiosa d'Éric Rochant. Mm-hmm. Et cette envie d'écriture, de fiction, elle vient d'où? Elle remonte à quand?
Alors l'envie d'écrire, c'est la seule que j'ai jamais eue de manière claire. Hein, donc c'est mon seul désir circonscrit depuis toujours. Après j'ai mis du temps à savoir comment j'avais envie d'écrire.
Vous voulez être journaliste au début?
J'ai essayé plein de choses et je pense que mon chemin il s'est fait un peu comme ça, de manière un peu libre. J'ai essayé l'écriture journalistique, mais j'avais des désirs de fiction. J'ai essayé l'écriture romanesque et puis j'ai accompagné des auteurs de romans en devenant éditrice. Donc j'ai cherché, puis de manière un peu empirique, comme ça j'ai fini par trouver quelle était ma place.
Oui, mais être journaliste, comme avec l'événement, c'est aussi une écriture utile que vous recherchiez.
En fait, c'est une écriture au contact du réel. Mmh. Moi, je crois assez peu à l'auteur. En tout cas, moi, je suis vraiment pas le genre d'auteur enfermé et seul. J'ai besoin de ce contact avec le réel, peut-être en premier lieu, pour créer l'ébauche de ce qui peut m'intéresser.
Anna Maria, vous écoutiez Lauryn Hill.
Plus sympa chez toi.
Plus sympa, ouais, tout de suite.
Ça, c'était pour danser, c'était pour se mettre de bonne humeur le matin, Lauryn Hill?
Non, mais moi, j'avais 12 ans à ce moment-là, j'avais pas de téléphone.
Et alors, on peut pas se mettre à danser?
J'avais pas de téléphone, ça, c'est ce que ma mère me faisait écouter, en fait. Et les playlists de mes parents, mais
bravo maman.
Dans la voiture, ouais. Merci maman. Ouais.
Et on parlait des rôles que vous aviez incarnés à cette époque-là. Vous jouez dans My Little Princess et vous incarnez
Eva Ionesco, une jeune fille érotisée très rapidement par sa mère photographe pour servir ses ambitions artistiques.
Ah oui, carrément, c'était l'objet des fantasmes de sa mère.
Absolument, ouais. Histoire ouais, qu'on connaît un petit peu. Donc vous êtes très jeune à cette époque-là. Comment est-ce que vous vous retrouvez sur un tel projet et comment est-ce qu'on y va en fait?
Je me suis retrouvée via un casting. J'ai passé un casting que j'avais trouvé sur internet.
Il y avait 500 candidats, vous avez été retenue.
Ouais, et je crois que là je m'a protégée en fait. Je pense que d'être petite et de pas avoir complètement conscience de la gravité du sujet m'a...
Vous avez 10 ans et demi.
Ouais, à ce moment-là, ouais.
Vous étiez un bébé.
Ouais.
Et que dit maman?
Maman m'encourage et papa aussi. Et je pense que ouais, mes parents étaient très... très bienveillant et très protecteur surtout, et ça m'a permis de garder ce rythme de vie et ce mode de vie très sain en fait et équilibré.
Avec Isabelle Huppert en plus pour commencer, c'est plutôt pas mal en partenaire.
Ah ouais, c'est la limite. Là, je regrette d'avoir joué avec elle aussi jeune, parce que maintenant, après, j'avais même pas idée de l'actrice immense que j'avais en face de moi. Et quand j'ai commencé à regarder des films, à me faire ma propre culture et ma filmographie, je me suis dit, mais attends, est-ce que j'ai joué avec Isabelle Huppert? Et là, j'ai envie de recommencer, bien sûr, mais ouais.
Ouais, ça a peut-être désinhibé aussi la situation, parce que si vous vous rendiez compte de qui elle était,
ça m'aurait trop impressionné.
Ça aurait tétanisé, ouais. En 2014, Audrey Diwan, vous écoutiez Christine and the Queens. NBO aussi.
Non, mais ce qui est fou, c'est que j'ai toujours le même plaisir. Vous savez, il y a des morceaux comme ça,
ouais, bien sûr,
qu'on peut écouter sans jamais s'en lasser.
Clairement.
Et je sais pas quel est le pouvoir magique de ce morceau pour moi, mais pour moi, c'est Les Paradis Perdus de Christine and the Queens, me fait toujours le même effet, quoi.
Qui se traduit comment? C'est un effet de bien-être, de...
Oui, alors que
suspension.
Le texte, je me sens en suspension, alors que le texte n'est pas nécessairement
clairement
joyeux. Pourtant, c'était une époque assez heureuse de ma vie, parce que c'est le moment où je commence à vraiment comprendre ce que je peux faire en tant que scénariste dans le cinéma, et c'est encore une ébauche de tout ça, mais c'est le moment où je me dis que définitivement ça va être mon parcours, mon métier, et que je commence à trouver un peu mes...
Vous réalisez quoi en fait?
Tout début, hein, ouais. En tant que scénariste, mais oui.
Vous co-signez le scénario de La French avec Cédric Jimenez, et vous racontez que Les Paradis Perdus, c'est aussi cette petite maison de pêcheurs à Marseille.
Oui, à l'époque, on avait acheté avec Cédric Jimenez cette petite maison. Et je me dis d'ailleurs que c'est un paradoxe en fait de trouver comme un petit morceau de paradis dans la colline et puis d'écouter Les Paradis Perdus. Enfin, ça me ressemble quoi.
Vous écoutiez Anna Maria, vous, 50 Cent. Ouais.
Définitivement, je crois que je préfère ta playlist, c'est ta vie.
C'est-à-dire que si l'une des deux organise une soirée, il y aura plus de monde chez l'une que chez l'autre. Je peux pas dire.
Ça dépend. Audrey.
Il y a des gens bizarres, Nadie.
Cherche amis pour soirée triste.
Vous êtes sur la bonne antenne, en tout cas, pour passer le message.
Et vous, Anna Maria, en 2014, on vous retrouve au casting de Jackie au Royaume des Filles, de Riyad Satouf, qu'on a reçu lundi dans cette émission. Et vous incarnez une jeune militaire dévouée dans la dictature instaurée par Charlotte Gainsbourg. Quel souvenir vous gardez de ce tournage-là?
Super souvenir, je me souviens de Vincent Lacoste et d'Anthony Sonigo à mourir de rire entre les prises, enfin vraiment une ambiance très joyeuse.
Sympa.
C'est super cool, ouais, vraiment sympa, ouais.
Ça aide, c'est important. Les ambiances sur le tournage, on s'en rend pas compte. Nous, évidemment, quand on voit un film, on s'en rend encore moins compte dans les promos, parce que généralement dans les promos, tout le monde dit ça s'est super bien passé, on a tourné.
C'est vraiment une expérience humaine.
Voilà, c'est famille, et ainsi de suite.
Non mais c'est horrible parce que du coup, quand c'est vrai, personne vous entend.
Exactement. C'était la fin de ma phrase. C'est-à-dire qu'on a du mal à croire qu'il puisse y avoir des amitiés qui naissent sur un tournage. C'était le cas sur Jackie?
Ouais, c'était le cas. Et après, bon, j'avais encore 14 ans.
Ouais, après, vous avez expliqué à Vincent Lacoste.
C'est un peu fatigant.
Vous avez dit à Vincent Lacoste, mais non, lâche-moi, c'est gentil.
Non, mais
je pense
que j'étais vraiment. J'étais pré-ado, quoi. Donc, j'étais un peu fascinée par cette ambiance, par l'univers de Riyad, en plus, qui vient de la BD. Enfin, lui, en plus, avant chaque crise, il dessine ses plans.
Il y a
un truc très, ouais. C'était vachement impressionnant et j'étais quand même, je pense, très admirative.
Vous avez gardé une planche de Riyad Satouf?
Non, mais j'aurais dû, ouais.
Ah bah alors, passez à côté, voilà. Passez à côté d'Isabelle Huppert, passez à côté d'Auriane Satour.
Elle est jeune, elle
bah,
est jeune.
Ouais. Juste, à quel moment vous, tout à l'heure, Audrey évoquait le moment où elle se rendait compte qu'elle était faite pour ça, qu'elle avait trouvé sa place. Est-ce que vous avez ressenti, vous aussi, ce moment-là, y compris à 10-14 ans?
Ouais, je pense qu'après le tournage d'Eva Enesco, je me suis dit que j'ai envie de recommencer. Mais je me suis vraiment dit que ce sera ça et rien d'autre. Je pense à l'adolescence, quand j'ai dû avoir 15 ans... J'ai commencé à envisager ça comme une possible carrière.
Violaine Naudard-Mérot, merci de nous rejoindre, madame. Vous êtes chercheuse et professeure émérite en littérature à l'université de Cergy-Pontoise et publiée sous votre direction et celle de Pierre-Louis Faure, Annie Ernaux, un engagement d'écriture aux presses de la Sorbonne. Alors, comment expliquer à ceux qui ne connaissent pas le travail d'Annie Ernaux, l'écrivaine qu'elle est?
Ben, l'écriture d'Annie Ernaux, c'est une écriture au contact du réel. C'est-à-dire que je pense que toute son œuvre part du fait qu'elle écrit à partir d'expériences. Alors, d'expériences qu'elle a vécues ou qu'elle a vues autour d'elle. Et je pense que, pour parler d'elle brièvement, le moteur de son écriture, c'est la colère ou le sentiment d'injustice.
C'est ça, elle se raconte dans ses livres.
Oui.
Parce qu'elle ne réussit pas à se raconter par la parole, c'est-à-dire que c'est une compensation?
Non, c'est pas une compensation.
Vous l'avez rencontrée? Est-ce qu'elle parle beaucoup?
Non, ce n'est pas une compensation, c'est-à-dire que l'écriture permet d'aller beaucoup plus à fond, d'approfondir les questions qui restent en surface et qui ne sont pas approfondies. Et elle considère que la parole ne va pas assez loin, justement.
C'est voilà. Une des premières à parler beaucoup de classe sociale, en fait, à travers son expérience.
Oui.
C'est elle qui est riche vraiment en art.
Absolument.
Ça a donné lieu à toute une génération d'auteurs.
Complètement. Oui.
De Nicolas Mathieu, actuellement, à d'autres, à des chanteurs aussi qui s'en emparent.
Éric Bon, Édouard Louis, beaucoup. Et alors, je pense que ce qui est important aussi pour la comprendre, c'est son histoire personnelle. Mmh. Le fait qu'elle se dit elle-même transfuge de classe, hein, puisque c'est une enfance en Normandie, des parents qui sont d'origine ouvrière, qui tenaient à Yvetot un café-épicerie. Et le fait qu'elle a réussi à faire des études supérieures, qu'elle a passé son CAPES, qu'elle a fait un mariage bourgeois. Et donc, elle a le sentiment, justement, d'être transfuge de classe et se faisant de trahir un petit peu. Mmh. Elle craint de trahir justement ce milieu d'origine. Et elle a beaucoup travaillé, et ça je trouve que c'est passionnant dans son œuvre, sur la question de la honte, et même de la honte d'avoir honte. Mmh. Voilà.
Tout ce qu'elle écrit est autobiographique?
Oui, alors, sauf qu'elle a une autobiographie, et c'est là qu'elle invente un genre. Mmh. Elle écrit ce qu'elle appelle une autobiographie impersonnelle. C'est-à-dire qu'il y a un effacement du « je », avec cette idée qu'il n'y a pas d'écart pour elle entre l'intime et le collectif. Et même lorsqu'elle raconte l'histoire d'un avortement, elle raconte ça en tant qu'elle est représentative de toutes ces femmes qui se sont retrouvées dans cette situation atroce à cause de cette clandestinité, de ce regard porté sur elle. Voilà.
Comment définir son style? La manière dont elle choisit ses mots, structure ses phrases, sa narration?
Alors, je pense que d'abord, c'est plutôt que de style, moi je parlerais d'une écriture. Et d'une écriture qui évolue, qui change tout le temps, parce qu'il y a un travail de l'écriture. Mmh. Et ce qui me paraît central dans cette écriture, c'est la recherche de la justesse, du mot exact. Et ça commence dès qu'elle commence vraiment à s'écarter de la fiction, avec La Place, qui est son premier grand livre. Et La Place, elle cherche à retrouver exactement, comme c'est en hommage à son père qui venait de mourir, elle cherche à retrouver les mots qui étaient vraiment les mots de son père, justement pour ne pas trahir. Et donc un refus de tout ce qui est joliesse, de tout ce qui est justement beau style ou rhétorique, au profit d'une vérité, non seulement des mots, mais des positions corporelles. Voilà. Donc ça, c'est le premier point, la recherche de cette justesse. Et puis, il y a aussi comme je le disais tout à l'heure, cette association toujours permanente entre l'intime et le collectif. Mmh. Et c'est peut-être dans les années que ça se voit de la manière la plus magnifique, hein, où elle va faire une sorte d'histoire culturelle et sociale de la France à partir des années 1940.
Dans laquelle tout le monde va se reconnaître.
Voilà, mais oui, enfin c'est surtout que sur le plan de l'écriture, elle invente vraiment l'autobiographie impersonnelle, collective. Et donc il n'y a pas de « je » dans cette... Hein, le pronom personnel « je » est supprimé au profit du « elle », pour parler d'elle, et des photos sur lesquelles elle travaille, mais aussi le « nous » et le « on ». Et il y a toujours ce passage du « je », du « nous » au « on », pour s'effacer derrière, justement, cette collectivité. Et puis l'autre grande invention, c'est de trouver le moyen de montrer cet écoulement du temps, parce que c'est aussi un de ses grands thèmes, la mémoire et comment parler sans le trahir, cette transformation du temps. Et là, c'est à partir d'un certain usage de l'imparfait. Et puis, je dirais un dernier point qui est très central dans son œuvre et qu'on retrouve dans l'événement, c'est la dimension réflexive. C'est-à-dire que dans tous ses livres, elle parle, c'est presque des arts poétiques en même temps. Mmh. Elle parle des raisons qui l'ont fait écrire et de la manière d'écrire par la même occasion. Voilà.
Ce qui est formidable, c'est que tout ce que vous avez dit correspond très bien aussi au film en lui-même. C'est ce que l'on ressent dans
C'est pour
ce
ça
film.
Qu'il est admirable. Je vous félicite parce que je trouve qu'il n'y a pas de trahison de ce qu'a voulu faire, je pense, Annie Ernaux.
Merci, Violaine Oudart-Méreau, d'être venue à ce micro. Merci mille fois. On va continuer de parler, d'évoquer ce film, évidemment, avec Audrey Diwan et Anna-Maria Bartolomé. Mais d'abord, voici le héros du jour, Monsieur Daniel.
Et mon héros du jour aurait très bien pu être, chers amis, Liena Douglas, une chercheuse écossaise qui a inventé le dog phone, le téléphone pour chien. Waouh, génial. Le dog phone, c'est un capteur de mouvement dans une babale. Quand votre chien secoue la babale, eh ben ça vous passe un coup de fil. On est d'accord, Liena se fout de la gueule du monde du coup, et ce n'est pas mon héroïne du jour. Non, mon héros est un photographe amateur qui, on peut le dire, a le sens de la vengeance. Le photographe de mariage est engagé pour suivre un mariage. Il prend des milliers de photos, la préparation de la mariée, l'attente du marié, la réception bien sûr, la fête avec des tonnes de clichés, de l'amour en phase de pérennisation civile et religieuse. Arrive le dîner, le photographe veut faire une pause, manger un petit morceau, et là le marié lui dit « Eh oh, t'es pas là pour glander, t'es là pour prendre des photos, pas pour bouffer, si ça te plaît pas, tu rentres chez toi, tu seras pas payé. » Une fois chez lui, le photographe en a gros sur la patate. Oh oui. Il est épuisé, affamé et en colère. Du coup, il fait quoi? Il envoie au marié la clé USB avec toutes les photos, sauf toutes celles où on voit le couple. Eh ouais, il a effacé tous les clichés où apparaît le couple ensemble ou séparément. C'est horrible.
C'est mesquin.
C'est horrible. Horrible, mesquin, mais génial à la fois. Oui, c'est génial. Et ça va leur servir de leçon aux affreux mariés. Malheureusement, ils vont comprendre, mais trop tard, qu'il fallait pas se marier. Les photos de la fête sont belles, et même sans eux, ces clichés, à la fois maudits et disparus, leur auraient remis en pleine gueule quelques temps après le divorce. Car oui, un bon mariage est toujours suivi d'un bon divorce. Ces clichés leur auraient remis en tête cette époque stupide où ils ont cru que, en dépensant une fortune en invitant des gens pour les regarder couper une pièce montée, ce serait un gage de bonheur et d'union éternelle. Foutaise, la thune est partie en fumée, et le couple aussi. C'est la vie, c'est comme ça. Ce photographe est mon héros, car en cachant la mascarade, il interpelle le monde sur la bêtise que représente l'investissement matrimonial. Cet homme devrait être un modèle pour les jeunes générations. C'est pourquoi j'en appelle solennellement à Emmanuel Macron.
Mais non !
Monsieur le Président, j'ai une requête. Avant de vous lancer en campagne présidentielle, veuillez s'il vous plaît procéder à un petit, tout petit remaniement ministériel. Oui, virez Adrien Taquet, secrétaire d'État chargé de la famille, et nommez à sa place ce photographe. Il le sait que le mariage n'est qu'une illusion bonne à se faire engraisser les traiteurs le jour de la noce et les avocats le jour du divorce. Pour une famille moderne, pour une famille qui aime se plonger dans l'amour mais sans sombrer dans les abysses de la déception, faisons de celui qui fait disparaître les photos de la noce, celui qui fait disparaître la noce et le mariage tout court, et le remplacer par quoi, me direz-vous, Président ? Excellente question, Emmanuel. Mais en le remplaçant par l'union libre et le multiple polyamour, synonyme de joie variée toujours et de pénicilline parfois. Mais quel bonheur! Vive le partage, vive les relations à partenaires multiples, en duo ou en groupe. Peu importe, Jésus a multiplié les pains, Rocco, les partenaires. Ne voilà pas deux hommes épanouis dans la multitude? C'est donc pour toutes ces raisons de liberté de cœur et de guibole que j'ai choisi ce photographe amateur comme héros du jour, mon cher Nagui.
Merci. Tony Bennett. Massureau, de quoi parles-tu? Bonjour d'abord.
Bonjour.
De quoi parles-tu aujourd'hui?
Eh bien, je vais parler des chiens et des chats, Nagui, nos petits loulous d'amour. Le classement des noms les plus donnés aux chiens et aux chats vient d'être dévoilé. Il y a des surprises.
On va continuer de parler aujourd'hui jusqu'à 12h30 de L'Événement, ce film qui sort en salle aujourd'hui avec Anna Maria Bartolomé, Cassim Motéquin, pardon, Louana Bajrami, Pio Marmaïs, en prof.
Cours magistral.
Ouais, j'aime bien. Il a le côté. Ok, d'accord. Ok, donc tu vas arrêter tes études. Ok, d'accord. Sandrine Bonner avec La Gifle. Après Lino Ventura, maintenant il y aura Sandrine Bonner au
la
cinéma.
Tarte.
C'est ça, ouais. Et Anna Mouglalis en faiseuse d'ange, le tout réalisé magistralement par Audrey Diwan. Ça s'appelle L'Événement, ça sort aujourd'hui et on en parle jusqu'à 12h30 sur Inter. Alexandre Corinet, que tant que tu dis rien, toi.
Si, bonjour.
Ah, bah voilà.
Attendez que tu prononces bien mon nom, c'est pour ça.
J'ai dit Corinet, Tanguy Bastureau, et nos invités Audrey Diwan et Anna Maria Avec ce casting, d'ailleurs, Audrey Diwan, vous parliez tout à l'heure du choix sur Anna Maria Bartolomé, de la qualité de ton interprétation. On est tous bluffés et emportés, comme on l'est par la plume d'Annie Arnaud, par le jeu d'Anna Maria. Est-ce que pour les autres acteurs, pour les garçons par exemple, est-ce que la question se posait de la même manière?
J'ai choisi les rôles d'hommes et ceux qui allaient les incarner avec beaucoup de précision parce que je voulais un équilibre, parce que je veux pas que ce soit moral, parce que je veux pas qu'il y ait de jugement. En fait, la plupart des hommes du film sont le reflet d'une époque où on connaît pas bien les problèmes de la femme.
De ces années 60, est-ce que vous avez été surprise par ce que racontait Annie Arnaud? Est-ce qu'il y a des choses que vous ignoriez personnellement pour avoir vécu ces années, en avoir entendu parler? Je pensais tout savoir et j'en ai encore appris quelques-unes grâce à votre film et à Annie Arnaud.
Moi, j'ai l'impression de n'avoir rien compris aux années 60 avant de m'être plongée dans ce livre et dans cette expérience de cinéma. Parce qu'en fait, quand on traite de ce sujet-là, en fait, on traite de beaucoup d'autres choses. Mmh. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était pas uniquement parler d'avortement clandestin. C'est qu'est-ce que c'est que d'être une jeune femme à l'époque? C'est qu'est-ce que c'est que la frustration sexuelle des jeunes de 20 ans? Je veux dire, on est juste avant mai 68. Le désir, c'est le désir de jeunes de 20 ans. L'approche de l'été, les corps qui bouillonnent, qui ont envie d'exulter, et en fait, une interdiction de s'approcher. Donc j'ai ressenti et j'ai vécu plein de choses auxquelles j'avais pas forcément pensé.
Qui est pas propre à cette génération-là. Après, il y a eu les années SIDA. Enfin,
En fait, ce qui est propre à cette génération-là, c'est la manière dont c'est vécu.
Oui.
Parce que les années SIDA, elles sont le reflet d'une époque, d'une liberté sexuelle. Là, on est juste avant. Donc en fait, le désir, il est tendu, mais personne n'a le droit de s'approcher. Et évidemment, après, j'ai appris plein de choses sur ce parcours-là. Moi, je m'étais.
Mais les docteurs.
Pas...
Moi, j'ai halluciné d'apprendre qu'un docteur pouvait faire croire.
Attention de ce que vous allez révéler du film.
Non,
mon Dieu, je transpire, j'ai peur.
Non. J'allais simplement dire qu'un docteur fait croire qu'il va aider et qu'en fait, il ne fait qu'aggraver la situation.
Oui.
Ça vous va, ça?
C'est parfait, je vous remercie.
Ok. Bon.
Ça va? Ça va mieux?
Non, mais c'est terrible. Ça veut dire qu'il vient rompre une forme de confiance, en fait. C'est ça qui est inquiétant avec ce personnage du médecin. C'est-à-dire que si on parlait d'intimité tout à l'heure.
De l'un des médecins, ils sont plusieurs. Ouais,
on parlait d'intimité tout à l'heure et de personnes qui vous voient au plus près et avec qui vous partagez des choses très, très intenses et très intimes alors que vous ne connaissez pas. C'est bien le cas du médecin, du généraliste qui vous suit. Et cet homme-là, pour le coup, est une figure masculine qui ne brille pas par sa solidarité. Alors, ou sa confiance.
Ça, c'est Fabrizio...
Fabrizio Rongenet est un médecin qui, en fait, cautionne ce qu'elle fait, mais n'a pas le courage d'aider.
C'est lui?
Et en fait, pour moi...
C'est l'autre médecin.
Ah non, c'est l'autre, pardon.
Et d'accord. Pour moi, c'était important, justement, qu'il y ait plusieurs médecins. C'était le cas dans le livre, mais en fait, ça donne différents avis et ça ne juge pas une condition à un moment, mais des hommes, en fait. Il y a des hommes qui réagissent différemment dans ce film. Après, je dis que je ne juge pas tous les personnages.
Mais
c'est
celui-là...
pas tout à fait vrai, parce qu'il y en a quand même un que je juge très fermement, et c'est cet
clairement,
autre médecin.
Ouais.
Et voilà, et moi je me disais, mais ça doit être si étrange de rentrer dans ce monde obscur où on ne sait pas à qui on peut faire confiance. Qui est là pour vous aider? Qui est là pour faire exactement l'inverse? On ne sait jamais à qui on est en train de parler. On ne sait jamais qui peut faire de la délation. On ne sait jamais qui peut vous envoyer en prison. Enfin, c'est quand même tout un parcours.
C'est pour ça qu'on parlait de thriller tout à l'heure, parce qu'il y a un véritable suspense.
On croira la vie à France Inter aussi. Qui fait confiance? Qui peut vous.
Anna Maria Bartolomé, quand on fait un film comme celui-là, alors, évidemment, il y a l'expérience ce l'enrichissement personnel, sûrement aussi l'ambiance sur le tournage, se lier ou pas d'amitié, mais sur soi, on apprend des choses.
Ouais, parce qu'on est confronté à soi. Comme vous le disiez tout à l'heure, on part de soi aussi pour interpréter certaines choses. Donc on se met face aussi à certaines facettes plus ou moins fragiles de sa personnalité. C'est pas toujours évident.
On se pose la question de savoir comment on aurait réagi si on avait été à la place du personnage.
Je me suis pas posé la question, mais on me l'a posé et je pense que j'aurais moi aussi fait de mon mieux et été aussi combative et déterminée qu'elle. Je pense que j'aurais essayé par tous les moyens d'être maîtresse de mon destin et de choisir ce qui me semble le plus juste.
Oui, on est au stade du courage.
Ah bah clairement, puisque les enjeux sont forts en fait, hein, on l'a dit, hein, risque de mourir en fait.
Et puis non, mais surtout le sentiment que tout le monde entier est contre soi. C'est-à-dire que la famille, les amis, les profs, les toubibs, enfin l'impression que c'est la planète entière.
Ouais, et qu'on n'a pas eu de chance, parce qu'elle échange avec une autre de ses camarades qui finit par lui avouer qu'elle aussi, elle s'est adonnée à ce désir brûlant. On les voit, c'est des jeunes filles, quand elles se préparent pour sortir, elles ont envie de ça et c'est tout naturel. Qui, elle, trouve ça aussi injuste quelque part, parce qu'elle, elle a couché, mais il ne lui a rien arrivé derrière.
Et puis, d'autres sont plutôt là en disant moi aussi ça m'est arrivé, tu peux me faire confiance, et là arrive le contact avec la faiseuse d'ange. D'ailleurs le terme n'est jamais employé dans le film de mémoire, je crois.
Non, mais en même temps je ne l'ai pas employé volontairement parce que je suis très troublée.
Alors, je suis désolée de le répéter plusieurs fois.
Non, pas du tout, parce que
c'est comme ça qu'on les appelait, ces femmes à l'époque.
Mais en fait toute la sémantique liée à l'avortement clandestin, je la trouve très floue, comme si c'était une volonté de ne mettre aucun terme concret sur les choses, qu'on ne se projette jamais dans la dimension réelle de ce moment-là. Enfin, pour moi, ce qui fait que c'est très incarné et très intense et très vivant et très dur aussi, ce chemin justement vers la liberté et la lumière, c'est que les mots qui désignent cette réalité, je ne les avais jamais vraiment entendus. Mmh. Avant de lire Annie Ernaux, je n'avais rien compris, mais si j'ai rien compris, c'est parce qu'on ne parle pas, c'est qu'on ne pose pas de mots
sur le problème. Ouais. Et à propos de mots, il faut aussi, lorsqu'une jeune fille se retrouvait à l'hôpital après un avortement, savoir si dans son dossier il était noté, ça aussi on ne révélera pas, si sur le dossier il est noté fausse couche ou avortement, ce qui condamne ou pas la jeune fille en question.
Mais on peut finir à l'hôpital, puis atterrir en prison. C'est ça. Enfin, je veux dire, si on envisage peine, ce qu'est le parcours des femmes à cette époque-là, mais moi je me dis, mais c'est quand même d'une cruauté inouïe. Mm. Personne ne s'est dressé contre l'idée que c'était d'une cruauté inouïe. C'est-à-dire que la loi pose les choses, et puis à un moment, on ne l'interroge pas, parce que la loi est là, et donc on n'a pas la place pour se poser des questions. Mm. Mais si on se pose des questions réellement, si par exemple
mais
aujourd'hui
là,
on est contre l'avortement...
Il y a des gens qui vous écoutent et qui disent la cruauté inouïe commence par l'avortement, et pas par le traitement.
Alors, écoutez, moi, je fais un film qui sert à poser des questions, pas à poser de réponses. Et moi, la question que je me pose...
Quand même.
Ah, moi, je trouve qu'elle pose une question. C'est, quand on est contre l'avortement, est-ce que par ailleurs, on est d'accord pour valider le parcours d'un avortement clandestin? Quand on est face à ce qui est vraiment un parcours d'avortement clandestin, quand on se retrouve face aux images, est-ce qu'on est toujours d'accord avec l'idée que les femmes soient obligées de traverser cette expérience-là?
Enfin, vous avez quand même une opinion que vous exprimez. Vous dites pas, je ne fais que poser une question. Vous donnez plusieurs réponses.
Alors, écoutez, moi, je pense que transparaît par le simple fait que j'ai envie d'adapter ce livre.
Oui, oui.
Le fait que je suis évidemment en faveur de l'avortement légal. Mais le film tel que je le pose, moi, ça m'a permis d'avoir des débats passionnants, hein. En montrant le film, j'ai discuté avec des gens, avec un journaliste italien, avec un jeune étudiant. On a discuté avec Anna Maria, avec des gens qui étaient au départ contre l'avortement, mais ébranlés par le film, ils se posaient des questions sur l'avortement clandestin. Oui. Pour faire avancer les choses, pour qu'il y ait une forme de réflexion collective, parce que l'art, ça sert à ça aussi, il faut poser les questions en dévoilant d'autres parts d'un vécu qu'on connaît mal.
Ça s'appelle L'Événement, et c'est aujourd'hui cet événement au cinéma, avec Anna Maria Bartolomé, Audrey Diwan sont nos invités, jusqu'à 12h30, voici Tanguy Pastureau.
Moi, vous le savez, j'aime les chiens, qui sont des êtres d'exception. Ils sont rigolos, ils sont foufous, ils sont l'antithèse de Michel Barnier. Mais j'aime aussi les chats pour leur côté hautain. Un chat, c'est fier. Ils bouffent de la pâté Lidl à 80 centimes et font leurs besoins dans du gravier, mais ils sont moins faciles d'accès que Kate Middleton. Avoir un animal, c'est mieux qu'un conjoint. Même après 7 ans de relation, il continue à vous faire des papouilles, l'animal. Il est pas là à se masturber en cachette sur le site de la chaîne Animaux, juste parce que leur relation est en bout de course. Un chien, un chat, c'est même mieux qu'un enfant. Déjà, le chien à 14 ans reste joli. il ne fait pas de crise d'acné et il ne mue pas. Jamais un chien ado ne se met à faire ouaf. Et puis on est proche de nos animaux, on les appelle nos compagnons à quatre pattes. Jamais on ne dira ça de son mec, ou alors c'est qu'il s'est fait une belle hernie discale. Moi par exemple, je vous aime tous à des degrés divers bien sûr, hein. Mais si vous étiez des chats, je préférerais, parce que le chat est digne. Jamais vous ne verrez un chat affublé d'une vieille veste en jean à la Gainsbourg comme Daniel Morin. Bref, j'adore les animaux, sauf l'ornithorynque, parce que j'arrive pas à écrire son nom, c'est pour ça que j'ai toujours préféré Tex. Et justement, il y a un moment délicat dans le couple maître-animal, c'est celui du choix du nom de la bête. Il faut qu'il corresponde. Si vous achetez un pitbull qui bave de rage et dévore des ragondins, vous n'allez pas l'appeler Bichou, hein, parce qu'il va vous sauter à la tête et vous arracher une oreille. Vous aurez beau dire que Van Gogh avait le même look, chez Apple, quand vous essaierez d'acheter un seul AirPod, on vous enverra bouler. Hein, donc il y a des noms de chiens notamment, il faut vous méfier quand vous les croisez. Hein, si vous voyez un chien courir vers vous avec son maître largué derrière qui crie « Viens, Sultan, barrez-vous !» Hein, pareil pour Saddam, Uzi ou Napalm. Mais ça peut être trompeur. Parfois, on a un ami qui a un Yorkshire, on lui fait « Guili, guili le kiki », là le truc nous saute à la gorge, le type dit « Je te présente Joe Star », et là le chien se met à faire « Ouh, ouh, ouh hein, !» Et si on écoute bien, il arrive à dire « Nique la police » en Japon. C'est important de bien choisir le nom de son animal, parce que ça fait comme avec les gosses, il prend la personnalité inhérente à son nom. J'ai connu un chien nommé Adolphe qui mordait tout le monde rue des Rosiers. Et récemment, le Parisien a consacré un article aux noms les plus donnés aux chiens et aux chats en France. La source est ICAD, fichier national d'identification des carnivores domestiques. Carnivores animaux, hein, votre oncle qui se tape chaque samedi soir le gris courte paille ne compte pas, même si après il se rôde contre la jambe de votre tante parce que la bière du menu à 19,90 l'a désinhibé. Bon, on continue à le classer chez les humains. Donc le palmarès 2020 pour les chats, en 1 on a Chaussette, en 2 Kitty à cause d'Hello Kitty, un personnage de chat qui a lui-même un chat, Charmy Kitty. C'est étrange, c'est comme si nous on possédait des humains. En fait, Hello Kitty, c'est une sorte de Jean-Baptiste Colbert moderne. Troisième nom le plus donné au chat, c'est Sweetie, ensuite Rock, et en 5 Meiko. Alors là, j'ai la référence. Voilà, donc auditeur, si tu l'as, écris à Nagui qui me transmettra. Non. Moi, je suis une star inaccessible. Donc ça, c'est pour le top 2020, mais il y a aussi le top général, celui de tous les chats vivants à ce jour. On voit qu'un chat est vivant quand si vous hurlez « Ah, mon petit loulou, je t'aime », il soulève une paupière et se rendort. Donc, au classement général, numéro 1, c'est Minette. Voilà, le grand classique des chats, c'est le Enzo des chats. Ensuite, il y a Nala, qui vient du nom de l'ami d'enfance de Simba dans le Roi Lion. Simba, c'est ce lionceau dont l'oncle a tué le père. Enfin, bonjour la famille dysfonctionnelle, on se croirait au tribunal de Dunkerque. Ensuite, il y a Tigrou et Gribouille. Alors, Tigrou, Nala, on voit que beaucoup de noms de tigres sont donnés à des chats, comme si c'était pareil. Alors que non, un tigre, vous lui tendez du Whiskas, il mange le Whiskas, puis ta main. Hein, c'est comme si chez nous, un tueur à gages tchétchène, on l'appelait Christine and the Queens, qui est totalement mignon. Mais parlons du top 5 des noms de chiens en 2020. Alors en 1, c'est Riette. Voilà. Et c'est là que je pense que François Fillon, le king de la Sarthe, ne s'est pas présenté à la bonne présidentielle. 2017, c'était trop tôt. Les chiens devaient s'appeler CAC 40 ou Biactol. Résultat, c'est Macron qui a été élu. Mais une France où la plupart des gens baptisent leur chien Riette, c'était un boulevard pour Fillon. En plus, il aurait eu 5 ans de plus pour bricoler des faux bulletins de salaire à sa femme Pénélope, son fils Télémac, Nono le petit robot, tout ça. Bon. Il se serait débrouillé. Hein. Ensuite, chez les chiens, alors il y a Roby, Loki, Kiba et Ravioli. Voilà, Riette, Ravioli, globalement, les gens donnent à leur chien le nom de ce qu'ils aiment manger. J'imagine que le chien de Cyril Lignac s'appelle Pavlova Revisité, celui de Elton John, Sexe de David Furnish, ou parfois Blanquette de Veau quand il y a des tensions dans le couple. Bon. Enfin, la directrice de la société d'identification déclare qu'en 2020, figurez-vous que le nom Saucisson a fait une vraie percée chez les chiens. Riette, Saucisson, donc le grand remplacement, je veux bien. En attendant, les chiens, c'est la même ambiance qu'un apéro identitaire organisé par un mouvement intitulé Fierté Blanche et Pied de Cochon au centre-ville de Lyon. Hein, il va peut-être y avoir une riposte, si ça se trouve dans le classement 2021, les chiens s'appelleront tous Rose des Sables ou Super Fennec. Bon, je sais pas. Voilà, donc ne vous étonnez pas si dans la rue vous entendez quelqu'un crier Riette. Hein, ce n'est pas un boucher traiteur désespéré face à la mode du véganisme qui cherche à vendre ses produits. Une Riette sur deux, c'est un chien. Et là, on réalise que 3 cafés gourmands, c'était pas un nom de groupe, c'était un nom de meute de chiens. Merci.
Ce sera un spectacle le 8 janvier à Granville.
Oui, la Manche.
En lisant le roman d'Annie Ernaux et le scénario et en jouant dans le film, Anna Maria, vous avez réalisé quelque chose, la chance d'être dans une autre génération, de ne pas avoir vécu ces années 60 ou pas?
Ouais, j'ai réalisé la chance que j'avais d'être une jeune femme en France en 2021.
ayant accès à des IVG médicalisées. Après, on en parlait avec Audrey, on n'est pas du tout ethnocentré. J'ai l'impression que ma génération est très engagée, donc j'étais très alerte de la situation dans le monde et de la situation de la condition de la femme dans le monde. Donc j'avais conscience de ça. Après, encore une fois, je vous le disais, j'avais aucune idée de l'idée du processus d'un avortement clandestin.
Et d'ailleurs, le être, comment dirais-je, rester dans l'époque des années 60, ça aussi c'est un exercice particulier, Audrey Diwan. Et Annie Arnaud vous a aidé à corriger dans l'adaptation du scénar que vous avez fait avec Maria. Vous étiez deux
avec
femmes.
Avec Marcia Romano.
Marcia, pardon.
Romano. Qui a collaboré aussi au scénario du film dont on a parlé hier.
Voilà. Est-ce que là, vous aviez besoin de à nouveau temporaliser tout ce qui se passait dans le film en disant ça, on pouvait le dire dans les années 60, ça n'existait pas.
Alors en fait, on a cherché comment ne pas être anachronique sans faire un film de reconstitution. Donc vraiment l'idée, c'est pour ça le film, il a ce format un peu particulier, le 1,37 qui est un peu comme un carré. C'était vraiment pour avoir au centre le personnage, pour le suivre. Et pour vivre dans ces années 60, c'était un peu la question que je me posais, pas à pas, comme si on avançait dans ce moment, et non pas comme en regardant au passé avec un peu de nostalgie. C'est souvent le risque quand on fait un film sur une époque passée. Donc vraiment pas du tout d'être dans la nostalgie, mais dans l'instant présent. Donc Annie Arnaud m'a aidé effectivement à rester dans cette espèce de justesse dont on parle depuis le début. Et puis après, par exemple, avec les comédiennes, on a travaillé sur... Comment on parle dans les années 60 quand on veut
entre
pas pasticher les années 60
ça.
Quand on veut pas imiter, parce que l'imitation et le jeu, voilà, je trouvais que c'était complexe comme idée. Et donc, on a travaillé par exemple sur la musique des années 60. Donc, comment on parle avant Internet? Comment tout prend plus son temps? Donc, il s'agissait de ralentir un peu. Et puis aussi, on se disait, finalement, on va pas courir vers le point final. On va pas parler comme ça. On va laisser les choses un peu plus en suspens. Donc vraiment se donner quelques repères
sur la musicalité donc du jeu.
Sur la musicalité du jeu. Comment on se donne des repères pour que finalement jamais on ne se dise ah ça ce sont les années 60 et qu'on regarde ce film comme un événement au passé, mais qu'on se dise pas non plus quel anachronisme et qu'est-ce qu'elles ont fait en revisitant
mais
ces années 60.
Vous êtes allé jusqu'à regarder des films des années 60?
Oui, bah ça en même temps j'en avais déjà vu quelques-uns, mais
non, mais vous les remémorez?
Oui, mais toujours en me disant comment on va interpréter les choses. D'accord. Et pas comment on va les singer. Parce que je pense qu'il y a plein de risques et il y avait plein d'endroits où moi j'avais pas envie d'aller avec ce film. Donc c'était essayer de trouver ce chemin un peu exigu, mais...
Tout en gardant cette jeunesse, parce que c'est aussi ça, quoi.
Sans... Oui. Ouais. Moi j'avais très envie de faire un film, je vous dis, sur la jeunesse, sur cette pulsion, sur la pulsion de cette jeunesse, et puis de dessiner comme ça un peu en filigrane. Enfin, je veux dire, les années 68 pointent à l'horizon, donc c'est quoi ce monde de tension particulière? C'est quoi ce désir? Qu'est-ce que c'est que ces filles qui arrivent à la faculté? Qu'est-ce qu'elles espèrent pour leur avenir? Enfin, toute la partie que je dirais plus lumineuse en fait du récit et qui compte beaucoup parce que
l'émancipation.
Sinon, oui, et puis pourquoi elles se battent?
Moi,
j'ai besoin de comprendre ce personnage. Il est peu psychologisé. C'est plutôt concret ce qu'on vit avec elle. Et j'ai besoin de savoir ce qu'elle a envie de vivre. Il est où son désir?
L'événement sort aujourd'hui au cinéma et dans la culture, Leïla Kadourdadi.
On va parler de The Power of the Dog de Jane Campion, qui sort le 30 novembre sur Netflix. Et on va parler surtout de l'acteur qui s'appelle Benedict Cumberbatch, qui a investi son rôle de cow-boy de façon assez impressionnante. Qu'est-ce qu'il a fait pour être vraiment un cow-boy?
Il s'est mis un fer à cheval au pied.
Non, pas un fer à cheval.
Il
a mis sa santé en jeu.
Il s'est mis à cloper.
Ouais, et il s'est même intoxiqué la nicotine. Il voulait absolument que son personnage soit au plus près de la réalité d'un cow-boy de l'époque. Donc, il a fumé des roulés sans filtre, en veux-tu, en voilà.
On l'a pas expliqué le principe d'un acteur.
Il s'est empoisonné à 3 reprises avec la nicotine.
Non, c'est un acteur, c'est de jouer, c'est pas de subir.
Il a même extrémisé l'équitation, mais bon.
Non, mais il a été même plus loin. Il est même plus loin parce qu'il y a la cigarette, forcément. Et puis, il a fait une petite croix sur les normes d'hygiène. Il a arrêté de se laver parce qu'il voulait sentir, voilà, être épais. Il voulait que quand il rentrait dans une pièce, on sache qu'il est là.
Pardon, Anna Maria ?
J'ai dit, j'en étais sûre. J'avais déjà entendu, je crois que c'était Shia LaBeouf, je sais pas comment on dit son nom, mais qui avait fait ça dans un film avec Brad Pitt. Et je crois que les acteurs lui avaient dit à un moment
il faut y aller
parce que c'était vraiment un souvenir pour l'équipe. Quoi. Ouais.
Mais là, il parle vraiment d'une couche de puanteur et il voulait que les gens présents.
Ce que
j'aime
bien, c'est quand il est là,
de puanteur.
Ça sent moins mauvais.
C'est chic, c'est les années 60,
c'est
moi, je traîne.
C'est ça.
Il voulait que les gens, une fois qu'ils étaient dans une pièce, bah, ils aient bien conscience qu'il était là. Quoi. On ne peut pas l'oublier vraiment, même par son odeur.
Quand on n'a pas de charisme, c'est pas mal. Moi, je conseille à Xavier Bertrand de faire la même chose. Quoi.
C'est ça.
Alors, voilà. Les gens se retourneront.
Sentir très très mauvais, voilà le conseil de la campagne présidentielle voilà. Pour l'investiture des LR. Jusqu'où aller pour investir un rôle, Anna Maria?
Et merci de vous être douché.
Au nom de toute l'équipe.
Alors, on parle souvent des prises de poids, des transformations un peu incroyables. Ça, on est un peu habitué à ça, au point de dire que c'est des rôles à Oscar, ou en tout cas à grosse récompense. Jusqu'où aller sur son intégrité physique, sur sa santé, sur ses cheveux, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a un truc, au contraire, que vous ne pourrez jamais faire?
Je pense qu'il faut juste se faire confiance et connaître son corps et s'écouter. Et à partir du moment où on sent qu'on va trop loin, il faut arrêter. Il ne faut pas que ça nous fasse de mal et il ne faut pas que ça prenne le dessus. Après, je pense que le champ des possibles...
Oui.
C'est un peu la même réponse que Stécie Martin nous a faite sur Nymphomaniac de Lars von Trier, en disant, tant que j'ai confiance et qu'il y a du respect, j'y vais.
Et vous, Audrey, jusqu'où de demander aussi à un comédien?
Alors moi, j'étais très précise sur cette question. J'ai toujours dit à Anna Maria que je ne la pousserais jamais là où elle ne voulait pas aller, mais qu'on allait chercher ensemble et désigner ensemble une ligne d'horizon exigeante. Et l'atteindre en cherchant ensemble, parce que bon.
Sinon, licenciement prud'homme, quoi. Enfin, après,
voilà, exactement. Je n'avais peur que de ça. J'avais ça en tête, c'est marrant.
Des excuses à présenter, Daniel.
Bien sûr, déjà désolé pour nos invités, André Diwan et Anna Maria Bartholomei, qui ont pu être désarmés par la légèreté, le mauvais esprit, la mesquinerie, la moquerie, l'ignorance qui caractérisait l'émission de ce matin. Alors, je comprends et. Et c'est dommage parce que c'est pas de chance. L'émission de demain, par exemple, sera placée sous le signe de l'élégance, de la distinction, de la bonne éducation, du bon goût, de la poésie de proximité avec Mathieu Madénian.
Ouais.
Désolé pour nos auditeurs réactionnaires et intégristes, donc naturellement fans d'Alexandre Kominek, qui ont été écœurés par le progressisme dégoulinant de l'émission de ce matin. Promis, demain, on se rattrape avec notre hommage à Pétain, à l'immigration zéro et à la peine de mort avec Mathieu Madénian. Désolé pour tous ceux qui n'ont pas de vocabulaire et donc fans d'Alexandre Kominek et qui se sont sentis perdus quand par exemple notre invitée Anna Maria a dit qu'elle n'était pas ethnocentrée. Waouh, le mot! Là, il y a eu quelques évanouissements. Rassurez-vous, demain, pas de chichi, c'est Mathieu Madénian. Désolé pour nos fidèles auditeurs qui, après avoir été bouleversés par notre spécial cancer hier et notre spécial avortement ce matin, regrettent déjà la venue demain de Mathieu Madénian. C'est vrai, il va finir par nous plomber la semaine, ce con.
J'ai oublié de citer, à tort, Louise Chevillotte également, pardon, Louise Aurie Diquero. Tout le casting est absolument formidable. Anna Maria Bartholomei, vous êtes formidable. Je vous le dis dans blanc des yeux, bravo pour ce film qui est prenant. Bravo à vous aussi, Audrey. Il est essentiel, cet événement qui sort aujourd'hui. Et ce lion est totalement mérité. Merci de ne pas avoir fait trop de silence, finalement, dans cette émission. Passez une bonne journée. Demain, c'est qui? Mathieu Madénian. Bonne journée sur Terre.